Bonjour tout le monde, bonjour Victoria, bon début de semaine. Vous êtes dans Le Débrief, votre rendez-vous info de fin de journée à l'antenne de CILS FM 107,9. Alexis Gagnon avec vous jusqu'à 17h. Merci d'être à l'écoute de CILS. En interview aujourd'hui, je m'entretiens avec François Brassard de l'organisme Dogwood Initiative qui va nous aider à bien comprendre le dossier chaud des pipelines et des oléoducs. Mais auparavant, on écoute les bulletins d'infos de notre collaborateur Denis Lépine. On enchaînera dans quelques minutes avec les infos provinciales, notamment. Restez à l'écoute. Le débrief est produit avec le soutien du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Educom national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. Jody Wilson-Raybould, ministre fédéral de la Justice et procureur général du Canada, a fait une déclaration suite à la décision du Parlement d'adopter le projet de loi C-14. Elle a dit que le gouvernement exprime sa reconnaissance pour les efforts des élus et du Sénat pour que le projet de loi sur l'aide médicale à mourir soit adopté. Elle a dit que l'aide médicale à mourir est un enjeu difficile, complexe et profondément personnel. Allocution de Jane Philpott, ministre de la Santé, sur la deuxième conférence « Tracer l'avenir des politiques antidrogues au Canada ». Elle a dit que le gouvernement croit toujours qu'il faut garder la marijuana hors de portée des enfants et les profits à l'extérieur des poches des criminels. Elle a également indiqué que le gouvernement Trudeau appuie le projet de loi privé du député Ron McKinnon qui vise à aider les victimes de surdoses. Le projet de loi accorderait à toute personne composant le 911 afin de venir en aide à une victime de surdose l'immunité à des accusations mineures de possession de substances illicites. Les forces armées canadiennes auront désormais un accès accru à une source nationale de données d'observation depuis l'espace. Ottawa a profité du week-end pour attribuer à McDonald, Detwiller & Associates Systems un contrat de $48,500,000 pour la livraison du système Polar Epsilon 2. Le système en question utilisera les images captées par les 3 satellites de la mission de la constellation RADARSAT qui sera lancée en 2018. Les images donneront un appui aux forces armées canadiennes dans leurs opérations au Canada et ailleurs dans le monde. Journée mondiale des réfugiés. Aujourd'hui, le gouvernement canadien a souligné l'événement plus tôt dans la journée. L'Assemblée générale des Nations unies mentionne sur son site Web fixé au 20 juin la principale journée commémorative internationale en faveur des réfugiés. L'organisme y précise aussi que cette journée est relayée dans de nombreux pays par des activités et des actions visant à faire connaître la situation particulière dans laquelle se trouvent quelque 43 millions de personnes. Rencontre aujourd'hui des ministres des Finances des provinces et des territoires à Vancouver. Le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, rencontrera ses homologues. Ils assisteront également à une présentation du gouverneur de la Banque du Canada, Stephen Poloz, sur l'économie mondiale et la politique monétaire du Canada. Ils tiendront un point de presse suite à la rencontre en fin de journée. L'Office des transports du Canada lance la première phase de son examen de la réglementation axé sur les transports accessibles. L'Office rencontrera aujourd'hui son comité consultatif sur l'accessibilité. Il demandera aux personnes ayant une déficience, aux fournisseurs de services de transport et à tous les Canadiens de se prononcer sur l'accessibilité. Les commentaires seront acceptés jusqu'au 30 septembre. Il est à noter qu'un document de travail sur les transports accessibles est disponible en ligne actuellement. Scott Striner, président de l'Office, a dit que l'Office s'engage à veiller pour que son initiative aide à faire progresser ce droit de la personne fondamentale. La tendance des dernières années se poursuit concernant l'âge de la retraite au Canada qui semble de plus en plus élevé. Selon Statistique Canada, la moyenne d'âge de la retraite est passée de 61 à 63 ans entre 2005 et 2015. Les dernières données montrent que le nombre de personnes qui devraient prendre normalement leur retraite mais qui poursuivent leur travail a augmenté de 62 % au cours de la dernière décennie. Presque une personne sur 8 de plus de 65 ans est toujours au travail, comparativement à une personne sur 13 il y a 10 ans. Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, doit animer aujourd'hui une table ronde. L'événement a lieu dans le cadre des consultations pan-canadiennes sur les langues officielles. L'événement sera également diffusé sur le web. Au sport, eh bien, les Cavaliers de Cleveland ont remporté le titre de la NBA 2016, gain de 93-89 contre Golden State. Premier titre de l'histoire de la concession, LeBron James a été choisi le joueur le plus utile. Au golf, après plusieurs défaites crève-cœur en tournoi majeur, Dustin Johnson a finalement mis la main sur le US Open 2016. L'Américain remporte ainsi le premier tournoi majeur de sa carrière. Au baseball maintenant, victoire de Baltimore, 11-6 contre Toronto. Les Jays sont en congé aujourd'hui. Ils recevront l'Arizona à compter de demain. Au tennis, Andy Murray a remporté le tournoi Queens, tournoi préparatoire à Wimbledon. L'Anglais a défait le Canadien Milos Raonic en trois manches de 6-7, 6-4 et 6-3. Et course automobile, Nico Rosberg a remporté le Grand Prix de Formule 1 d'Europe.
C'était les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine. Bienvenue dans le débrief. Il est 16h06. Vous écoutez CILS. On va passer aux nouvelles provinciales. Vancouver s'adresse à la Cour pour empêcher l'expansion de l'oléoduc Trans Mountain de la compagnie Kinder Morgan. On va reparler du dossier des pipelines un peu plus tard dans l'émission vers 16h40. Restez à l'écoute. La ville de Vancouver vient de se joindre au nombre grandissant des groupes qui demandent aux tribunaux d'arrêter le projet Trans Mountain, un projet d'expansion de pipelines entre l'Alberta et la Colombie-Britannique. Dans des documents déposés en cour la semaine dernière, la ville de Vancouver indique qu'il est nécessaire d'empêcher l'Office national de l'énergie de favoriser la réalisation du projet Trans Mountain. La ville de Vancouver est d'avis que l'Office national de l'énergie n'a pas effectué une évaluation adéquate du projet au cours des derniers mois lorsque avant de lui accorder son approbation en mai, il y a quelques semaines. La ville de Vancouver soutient en outre que l'Office national de l'énergie n'a pas mené une étude environnementale appropriée, une étude qui aurait pris en compte les émissions de gaz à effet de serre associées à ce projet. Cette action en justice de la ville de Vancouver s'ajoute à d'autres qui ont été intentées par d'autres groupes et organismes, au nombre desquels on compte la Living Oceans Society, laquelle a souligné que les conséquences potentielles sur les populations d'orques n'ont pas été prises en considération au cours des travaux de l'Office national de l'énergie. Il y a également la Première Nation de Squamish, qui a elle-même entamé une démarche de révision de la décision récente de l'Office national de l'énergie concernant Trans Mountain. Et la nation Squamish, oui, a souligné à son tour que l'Office n'avait pas consulté comme il se devait de le faire les premières nations concernées par le projet Trans Mountain. Donc un dossier qui continue de défrayer la chronique et d'être à l'avant-plan de l'actualité que ce projet de pipeline expansionnel de pipeline voulue par la compagnie Kinder Morgan. Autrement, je vous mentionne cette fusillade à Souk qui a bouleversé la population de Souk, une ville périphérique ici dans le Grand Victoria. Alors, c'est la suite et la fin de cet épisode. Les forces policières de Souk ont indiqué aujourd'hui, lundi, que la chasse à l'homme visant depuis environ une semaine à capturer les auteurs d'une fusillade ayant fait deux blessés graves, cette chasse à l'homme donc a pris fin. Le sergent de la GRC, Jeff McArthur, a déclaré que deux suspects avaient été arrêtés en lien avec cette affaire la nuit dernière après que la police eut encerclé une maison située à une quarantaine de kilomètres de Victoria. Les deux présumés criminels devaient comparaître en cour aujourd'hui. Notons qu'un premier suspect dans cette affaire, ils étaient trois en tout, avait été arrêté il y a quelques jours, à savoir mercredi dernier. Je vous parle d'une nouvelle qui concerne la vente de cannabis. C'est une nouvelle qui concerne indirectement la Colombie-Britannique puisqu'il y a une entreprise vancouveroise qui est en jeu dans cette nouvelle, dans cette actualité. C'est une boutique de cannabis qui ouvre ses portes dans la ville de Québec. C'est une première. On sait que c'est courant ici en Colombie-Britannique. Cependant, ça n'est pas du tout répandu au Québec. Il s'agit d'une première. légère. Donc, s'il est relativement facile de se procurer du cannabis médicinal au Canada, ce le sera encore plus pour les gens de Québec avec l'ouverture de la première boutique québécoise appelée la boutique du Roi du Pot, oui, ces jours-ci, donc, dans le quartier Saint-Roch de Québec. C'est une succursale d'une entreprise britanno-colombienne, comme l'écrit le journaliste Pierre-Olivier Fortin dans le Journal de Québec. La boutique Weeds Québec, Herbes et Curiosités, a ouvert ses portes lundi au 47 rue Saint-Joseph-Ouest. L'entreprise de Vancouver se targue sur une affiche dans la vitrine du magasin d'être le premier dispensaire cannabis de cannabis médicinal au Québec. La chaîne Weeds Glass and Gifts compte 28 dispensaires en Colombie-Britannique, à Toronto et à Ottawa. Le roi du pot, autoproclamé Don Brière, qui est le propriétaire de cette chaîne Weeds de Colombie-Britannique, souhaitait également ouvrir une boutique à Montréal, mais le projet n'a pas vu le jour, il ne s'est pas concrétisé, mentionne le Journal de Québec dans cet article. Le journaliste écrit que l'ambiance de cette nouvelle boutique ressemble davantage à celle d'une pharmacie que celle d'un coffee shop enfumé d'Amsterdam. Le responsable de la boutique à Québec, Michel Dumont, explique qu'il faut avoir 18 ans ou plus pour être membre. Les consommateurs dûment autorisés à consommer du cannabis par le gouvernement fédéral sont acceptés. Toutefois, on accepte les prescriptions pour n'importe quelle condition musicale pour pouvoir effectuer la transaction. Donc, le propriétaire a indiqué, on peut vendre à peu près à n'importe qui est malade si le médecin considère que cette personne est malade, a expliqué le propriétaire de cette boutique, Michel Dumont. Donc, c'est un peu semblable à la Colombie-Britannique. Je voulais vous le mentionner puisque ça concerne une entreprise vancouveroise, donc qui a maintenant pignon sur rue à Québec. Et d'ailleurs, les substances, le cannabis vendu dans cette boutique provient de Colombie-Britannique. On va passer en musique à présent. Je vous propose d'écouter un auteur-compositeur qui s'appelle Girard. C'est son nouvel album vient de sortir il y a quelques jours. On écoute une pièce qui s'intitule « Chute libre ». À tout de suite.
En retard. c'est une mascarade. Brise le mur des songes. Le désir est le prix du mensonge. Prends l'apparence d'une seconde. Revisitez-la.
Auteur, compositeur, interprète Girard dans le débrief à l'antenne de CILS. Il s'agit d'une pièce tirée de son plus récent album. On va passer à la nouvelle du jour, si vous le voulez bien. La nouvelle du jour concerne les avions, l'aviation. Il y a Bombardier qui se départit de ces fameux avions amphibies, les Canadair, ceux qu'on appelle aussi familièrement les CL-215 et les CL-415, ces fameux pachydermes qui vont sur l'eau faire le plein pour ensuite aller combattre les incendies en bombardant leur cargaison, donc leur eau sur les brasiers forestiers. C'est un avion qui frappe l'imagination. C'est un avion qui a quelque part symbolisé Bombardier pendant de nombreuses années. Et voilà que la compagnie a décidé de s'en départir et de le vendre, donc de vendre toutes les activités associées à cet avion, à la fabrication de cet avion, à une compagnie de Colombie-Britannique qui s'appelle Viking Air Limited. Alors, je vous lis un article paru dans la presse aujourd'hui. Bombardier a décidé de se départir de son programme d'avions amphibies utilisé pour lutter contre les incendies de forêt. Le fabricant aéronautique a vendu les biens et l'expertise concernant les modèles CL-215, CL-215T et Bombardier 415. Donc ça a été vendu à l'entreprise Viking Air Limited de Colombie-Britannique. La transaction a été annoncée aujourd'hui. Elle inclut également les activités liées au service après-vente. Aucun avion amphibie n'a été fabriqué depuis quelques mois, c'est-à-dire depuis que Bombardier avait mis en décembre son programme d'avions amphibies sur pause. Le montant de la transaction n'a pas été rendu public par Bombardier. L'entente définitive devra être approuvée par les autorités gouvernementales et réglementaires pertinentes. Les procédures devraient se conclure au cours des prochains mois. Bien que le programme d'avions amphibies fasse partie de notre longue tradition, a indiqué Alain Bellemare, président et chef de la direction de Bombardier. Cette session permettra à Bombardier de mieux se concentrer sur ses activités de base à croissance plus forte, soit les biréacteurs d'affaires, les avions commerciaux et le transport sur rail. Près de 170 avions amphibies Bombardier sont actuellement en service à l'échelle internationale. Un plan a été mis en place pour transférer les 50 employés du programme d'avions amphibies dans d'autres secteurs de l'entreprise Bombardier lorsque la transition des activités vers Viking Air aura été complétée. Viking Air est un collaborateur de longue date de Bombardier. L'entreprise se spécialise dans les services en soutien aux avions utilitaires en plus de fabriquer l'avion Twin Otter. Donc voilà, alors c'est un symbole de bombardier qui va être maintenant entre les mains de Viking Air en Colombie-Britannique. On va jeter un petit coup d'œil à la météo, si vous le voulez bien. J'ai oublié de vous la mentionner dans le segment précédent. C'est sans doute parce qu'on a une météo qui ne cause aucun souci. En effet, il fait très beau sur Victoria. On a un beau 20 degrés Celsius actuellement. Le ciel est dégagé et ça va rester dégagé en soirée. Demain, même chose au programme, 20 degrés. Quelques nuages, rien de majeur, donc une journée ensoleillée avec un maximum de 20. Et pour mercredi, il y aura beaucoup plus de nuages, donc le ciel sera gris et on aura une probabilité d'averse de 40% et un maximum de 17. Donc profitons-en en début de semaine, aujourd'hui et demain. On va retourner en musique, je vous propose d'écouter l'artiste Sofiane Mustang avec la pièce « Et Monsieur ». Mustang avec la pièce « Et monsieur » dans le débrief. Merci d'être à l'écoute de CILS. L'info se poursuit. On va s'intéresser à l'agenda culturel. comme d'habitude, le lundi, c'est Movie Monday. Je vous mentionne bien sûr l'existence de ce ciné-club à tous les lundis. Movie Monday, c'est au coin de Lee et Fort à Victoria, près du Royal Jubilee Hospital. Et ce soir, on a un documentaire historique qui s'intitule Rebels with a Cause. C'est un long métrage documentaire de 74 minutes, 2013, assez récent. Et ça relate l'histoire d'activistes de la région de San Francisco qui, dans les années 50 et 60, ont milité pour faire protéger le littoral de la région de San Francisco afin que des sites soient préservés de la spéculation immobilière et du développement industriel. Donc c'est un film qui salue ces pionniers qui par la suite ont inspiré d'autres mouvements partout en Amérique du Nord et qui ont donné naissance finalement à un réseau d'aires protégées, de parcs, d'aires de récréation aux États-Unis et sans doute au Canada aussi. Donc ça s'intitule Rebels with a Cause. C'est un film de 74 minutes. Sera projeté ce soir, donc dans le cadre de Movie Monday, oui, le ciné-club dès lundi, moviemonday.ca pour avoir de plus amples infos. La projection est à 18h30. On reste dans l'art cinématographique, le 7e art. Je vous mentionne que du côté du campus de l'Université de Victoria, UVic, on aura au cinéma d'art et d'essai Ciné Santa ce soir à 19h et 21h20, une projection du plus récent film de Richard Linklater. Je ne sais pas si vous avez vu Boyhood. C'est un film qui a fait grand bruit un peu partout dans le monde et qui a été très plébiscité ici à Victoria. C'est un très beau film qui avait été projeté à l'Odéon, je crois, l'année dernière, donc qui relatait l'enfance d'un garçon jusqu'à son entrée à l'université. Eh bien, on a le nouveau film de Richard Linklater qui s'intitule Everybody Wants Some. C'est à 19h et 21h20. C'est une comédie qui réunit des joueurs de baseball universitaires, donc qui sont dans une équipe universitaire et ça relate leur première saison, leur première session d'études aussi, dans un college en tant que joueur au programme, en tant qu'étudiant au programme de l'université bien sûr, mais aussi joueur étoile dans l'équipe de baseball. Donc ça s'intitule Everybody Wants Some. Et c'est ce soir à Ciné Santa à 19h et 21h20. Je vous mentionne également, j'en profite, c'est dans l'agenda culturel également. Ça n'est pas à proprement parler une sortie de divertissement, mais c'est pertinent néanmoins. L'Assemblée générale annuelle de CILS aura lieu dans quelques jours, à savoir le 23 juin à 17h30 à l'école Victor Brodeur à Esquimalt. Donc, c'est le moment de rencontrer les gens de la radio. J'espère vous y croiser et de vous familiariser avec les enjeux de notre radio CILS FM 107,9. Donc, je le mentionne dans l'agenda culturel comme activité à faire le 23 juin à 17h30, Assemblée générale annuelle de CILS FM. J'espère vous y voir. On va retourner en musique. On va écouter Bertrand Belin avec la pièce Folle, Folle, Folle. Au retour, ce sera la revue de presse des éditoriaux.
Une pluie folle, folle, folle. Sous une pluie folle, folle, folle. La silhouette rentre enfin. La silhouette rentre enfin. Sous une pluie folle, folle, folle. Mmh. balance. La silhouette slalom. Entre deux boueuses, flac, flac. Avisant une personne. La silhouette agite la main. La silhouette agite la main. Alisant une personne.
Excellente pièce folle, folle, folle de Bertrand Belin dans l'émission Le Débrief. Vous écoutez CILS FM 107,9. Merci d'être avec nous. L'émission se poursuit jusqu'à 17h. On va passer maintenant à la revue de presse des éditoriaux. On parle du Brexit, le référendum fatidique qui va se tenir en Grande-Bretagne dans quelques jours à peine, le 23 juin. Donc c'est imminent. Je vous signale un papier paru dans Libération. C'est signé Sonia de Lesalle-Stolper, qui est correspondante de Libération à Londres. Elle écrit « C'est la dernière ligne droite, l'heure entre chien et loup, celle où l'on n'est plus sûr de rien et où l'on jette ses dernières forces dans la bataille. » C'est la dernière ligne droite, celle où l'on n'est plus sûr de rien, oui, a écrit-elle. Ce jeudi, quelques 45 millions d'électeurs britanniques se rendront aux urnes pour décider de l'avenir de leur pays et peut-être aussi de celui du continent européen. Cette fin de campagne au Royaume-Uni est étrange. Les nerfs sont clairement tendus, mais les mots sont moins durs, moins menaçants à cause d'une jeune femme de 41 ans, députée travailliste, dont le sourire ne quitte plus les pages des journaux et les écrans de télévision depuis jeudi dernier. Et depuis son assassinat en pleine rue par un individu à l'esprit chargé d'idéologie d'extrême droite, Jo Cox est morte et la campagne pour le référendum a indéniablement changé et peut-être même basculé, écrit Sonia de Lesalle-Stolper dans Libération. Soudain, les sondages semblent pencher à nouveau vers le Remain, à savoir rester dans l'Union européenne. Pour les bookmakers, donc les preneurs de paris, ou plutôt pour les parieurs, il ne fait pas de doute que le Remain remportera la majorité des suffrages jeudi, de quoi redonner un peu le sourire au camp des partisans de l'Union européenne et au marché et à la livre sterling après avoir baissé toute la semaine dernière au gré des sondages successifs en faveur du Leave, partir de l'Union européenne, sont remontés en flèche en ce début de semaine. La logique historique des référendums note un penchant vers le statu quo à mesure que se rapproche la date du vote, surtout parmi les indécis. Pourtant, le meurtre de Jo Cox a sans aucun doute obligé les Britanniques à s'interroger sur le ton extrêmement violent, voire nauséabond de cette campagne référendaire. Donc c'est un papier signé Sonia de Lesalle-Stolper dans le journal Libération aujourd'hui, 20 juin. On va se tourner vers le journal Le Devoir et les pages éditoriales dans lesquelles on trouve un texte de Pierre Baudet, qui est enseignant à l'École de développement international et de mondialisation à l'Université d'Ottawa. Après les dernières élections fédérales, écrit Pierre Baudet, plusieurs personnes ont poussé un soupir de soulagement. En effet, sous le gouvernement Harper, le Canada s'était fait le champion de la guerre sans fin, entre guillemets, déclenchée par le président Bush. Les soldats canadiens allaient au combat contre des insurgés afghans et irakiens sans trop d'égard aux dommages collatéraux sur les populations civiles. Il y avait un alignement total avec le gouvernement israélien. Une violente rhétorique anti-Iran laissait entendre que le gouvernement pourrait se joindre à une opération contre ce pays. C'est ainsi que le Canada a perdu toute crédibilité dans ses relations bilatérales et multilatérales au cours de l'ère Harper, en apparaissant comme allié subalterne des États-Unis. Alors Pierre Baudet se demande, 6 mois plus tard, quel est le bilan donc du gouvernement Trudeau? On est maintenant dans une nouvelle ère, et donc il interroge les différents points chauds du Moyen-Orient. C'est le sujet de son texte. Donc il touche à la crise irakienne, bien sûr. Il parle du chaos et du carnage en Syrie. Il mentionne l'intervention humanitaire qui a connu ses ratés et ses succès. Il parle aussi de l'impasse en Palestine et de la situation dans la bande de Gaza. Donc, je vous recommande fortement ce texte signé Pierre Baudet de l'École de développement international et de mondialisation à l'Université d'Ottawa. C'est dans les pages du Devoir aujourd'hui, ledevoir.com. On va se tourner vers un sujet qui est dans l'actualité périodiquement, régulièrement, on parle des pitbulls, ces chiens qui ont des mâchoires très très puissantes et qui sont considérés par plusieurs comme très dangereux. On se souviendra ici en Colombie-Britannique qu'il y a à peine 10 jours, on a eu 4 personnes, 4 femmes ont été blessées et hospitalisées à Surrey en raison d'une bagarre entre pitbulls qu'elles ont voulu interrompre et mal leur a en pris puisqu'elles ont été blessées sérieusement. Donc c'était le dernier incident en date d'une série qui implique des pitbulls en Colombie-Britannique. Ça fait un petit bout de temps que des incidents surviennent à cadence régulière. Et il se trouve que le Québec, nos amis du Québec ont connu le même problème dernièrement. Il y a une vague d'agressions de pitbull qui s'est déclarée au Québec et ça a causé un certain retentissement et ému la population. Et différentes mesures ont été prises pour empêcher que des situations se reproduisent. Donc, il y a un texte dans La Presse, c'est signé par l'éditorialiste Pascal Breton, et elle est fermement contre le statu quo. Elle appelle à une réglementation serrée de ces chiens qu'elle considère comme dangereux. Une question se pose, écrit-elle, pourquoi tolérer un chien issu d'un croisement spécifiquement destiné au combat, dangereux au point de devoir porter une muselière, puissant au point où une laisse ne suffit pas à le retenir et agressif au point qu'il faille le tuer pour lui faire lâcher prise. On pourra brandir toutes les statistiques possibles, écrit Pascal Breton, sur les morsures. Le fait est que le pitbull, lorsqu'il attaque, ne fait pas que mordre, il déchiquette, il mutile, il défigure et il peut tuer. Il faudrait donner la voix aux médecins qui reçoivent ces enfants défigurés, ces adultes mutilés aux urgences. Une étude publiée en 2011, poursuit Pascal Breton, portant sur des patients admis en traumatologie après avoir été attaqués par un chien, conclut que les pitbulls sont associés à des taux de morbidité et des coûts d'hospitalisation plus élevés et un risque de décès plus grand. Après avoir d'abord réagi mollement la semaine dernière, le gouvernement de Philippe Couillard, qui est le premier ministre du Québec, évoque aujourd'hui l'urgence d'agir et promet de passer à l'action d'ici la fin de l'été. Le premier ministre Couillard envisage même, écrit Pascal Breton, d'emboîter le pas à l'Ontario qui interdit les pitbulls depuis 10 ans. Donc ça, c'est bon à savoir. L'Ontario interdit les pitbulls depuis 10 ans. Elle poursuit, maintenant que le gouvernement semble avoir saisi l'inquiétude légitime des citoyens et l'urgence de prendre des mesures, nous faisons appel à son jugement. La vie humaine doit primer sur celle des pitbulls ou des chiens dangereux. On verra ce qu'il advient du dossier ici en Colombie-Britannique. Il y a plusieurs municipalités un peu partout au Canada, y compris en Colombie-Britannique, qui interdisent les pitbulls. Mais est-ce qu'on a besoin d'une loi provinciale? Il semblerait que oui. Il va falloir que le gouvernement se penche sérieusement sur cette question, qui est un enjeu de santé publique, finalement. On va passer bientôt, dans quelques instants, à l'interview du jour. On va avoir François Brassard en studio. C'est une entrevue que j'ai réalisée il y a quelques jours. Donc, François Brassard est un résident de Victoria qui s'engage avec beaucoup d'énergie sur le terrain dans le but d'informer les citoyens sur les enjeux environnementaux de notre époque. Peut-être l'avez-vous vu récemment au Festival de la Francophonie. Le mois dernier, il était présent et informait les gens sur le site sur les activités de Dogwood Initiative. Donc, il est membre actif de Dogwood Initiative. Il est responsable d'ailleurs pour la ville d'Esquimalt, ici dans la grande région de Victoria. Donc, il est passé nous voir en studio il y a quelques jours pour nous parler des projets de pipeline Northern Gateway et Trans Mountain. On va écouter cette interview dans quelques instants. Nous sommes de retour dans l'émission Le Débrief, votre rendez-vous d'infos de fin de journée quotidien du lundi au jeudi. J'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec François Brassard, qui est un membre très actif de l'organisation environnementaliste Dogwood Initiative. Il est responsable, Monsieur Brassard, de la section Esquimalt, ici dans la grande région de Victoria. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité qui concerne les pipelines et particulièrement de Northern Gateway, qui est un pipeline qui a été fortement critiqué, qui a été remisé, mis à l'écart, et puis qui semble être réanimé suite à différentes déclarations, notamment des déclarations de la première ministre de l'Alberta, Rachel Notley. En avril, elle a dit que le projet avait de bons côtés, de bons éléments, et qu'il était possible que ce projet aille jusqu'à son terme. Donc, je suis avec Monsieur François Brassard. Merci d'être là, Monsieur Brassard. Est-ce que Northern Gateway est toujours vivant, entre guillemets?
Très peu, je dirais. Parce qu'il y a assez bien d'opposition, non seulement de la part des gens qui sont en faveur de protéger l'environnement, mais aussi à l'intérieur de l'industrie pétrolifère. Parce que ils savent combien d'opposition il y a,
oui.
Et alors ils hésitent d'investir des sommes considérables pour que ce projet puisse avancer. Deuxièmement, il y a opposition aussi, il y avait du gouvernement fédéral, pas simplement de l'Alberta ou de Notley, mais Justin Trudeau avait dit avant l'élection qu'il était en faveur d'un moratorium,
oui.
Un moratoire sur, oui. Sur des projets comme celui de Enbridge pour le Northern Gateway.
Est-ce qu'on peut rappeler aux auditeurs de CLS le trajet que suit ce pipeline qui est en projet? Donc, c'est dans le nord de la Colombie-Britannique, n'est-ce pas?
Oui. Oui,
okay.
Oui, et il voudrait que ça sorte, je crois que c'est à Kitimat.
Oui.
Des fois, il parle aussi de faire Prince Rupert, mais de toute façon, tous les deux sont très dangereux.
Pourquoi?
Parce que la navigation pour ces grands super pétroliers sont c'est bien trop grand pour naviguer entre tous les petites îles qu'il y a de la rivière pour en sortir finalement sur le Pacifique.
Oui.
Alors ça, c'est un des problèmes.
C'est un des... Il y a d'autres problèmes, évidemment. Les pipelines peuvent se briser, fuir, causer des accidents. Bon, vous me disiez hors d'antenne un peu plus tôt ce matin que l'Office national de l'énergie avait lui aussi, comme Rachel Notley, remis le sujet sur la table récemment. Qu'est-ce qui se passe?
L'affaire, c'est que le projet que Enbridge préparait avait une limite de temps.
Oui.
Et cette limite pour que... Ils avancent avec le projet ou non, ça se termine dans un mois. Alors, ils ont demandé
à l'Office national de l'énergie.
Exactement, ils ont demandé d'avoir une extension, une prolongation du temps de 3 ans pour réussir à faire le programme. Ceci va contre ce que Trudeau avait dit avant l'élection, qu'il était opposé à ceci. Et en plus, c'est contre. Si on avançait avec ce projet, c'est impossible de maintenir les promesses que Trudeau et le ministre de l'Environnement avaient promis à Paris.
Oui, à la COP21.
Oui. Mm-hmm. De maintenir le niveau de la température à 1,5 centigrade
au Celsius. Au-dessus des normales historiques.
Oui.
D'accord, effectivement.
Et ils ne peuvent pas réussir si cela continue. Alors, l'affaire, c'est que pour l'instant, oui, c'est possible qu'on pourrait prolonger, ils pourraient pousser ça. Nous sommes opposés parce que, de toute façon, le danger est là et on ne voudrait pas que ça avance. Mais il y a une opinion ici, opinion.
Bien sûr.
C'est que Notley voulait, tout ce qu'elle veut, franchement, c'est que le bitume puisse arriver sur la côte
ouest,
côte ouest de la Colombie-Britannique, d'une façon ou autre. À mon avis, c'est possible. C'est possible, c'est simplement mon opinion.
Oui.
Mais c'est possible que l'Agence nationale de l'énergie n'accède pas à cette proposition de prolongation.
D'accord.
Que ça ne passerait pas. Mais, alors, si ça c'était fait, le gouvernement pourrait, alors, après ça, dire, bon... Écoute bien, voilà ce qui est arrivé, ce n'est pas approuvé, et on a concédé là-dessus. Maintenant, pour le projet de Kinder Morgan, il faudrait quand même que cela puisse avancer. Donc, ils pourraient utiliser le négatif pour le projet au nord en vue de pousser, franchement, celui du sud.
Donc, c'est un jeu tactique.
Exactement. C'est ce que je crains.
Ça s'inscrit dans une stratégie.
Oui.
Qu'est-ce que vous pensez du travail de l'Office national de l'énergie? Est-ce que vous croyez qu'ils sont à l'abri de l'influence de l'énergie exercée par l'industrie?
Non, parce que tous les directeurs viennent de l'Alberta. Et ils ont été tous choisis par Harper directement. Et ils restent là. Ils n'ont pas été enlevés. Oui, c'est vrai, Trudeau a dit qu'il allait changer la configuration de la
conseil.
Direction.
La conseil,
direction. Oui, exactement. Okay. Mais il ne l'a pas fait pour l'instant. Ça se peut qu'il va le faire, mais de quelle façon? Qui serait sur cette commission? On ne sait pas encore.
Donc, ce sont encore des promesses qui ne sont pas encore réalisées?
Non. Et il est... Franchement, il est bien coincé entre toute la pression qui vient de l'industrie pétrolifère, des corporations, compagnies et pays.
Oui.
Parce que la Chine... donne comme condition pour négocier
Un accord de libre-échange?
Oui, exactement.
Oui, okay.
Un accord de libre-échange. Une des conditions, ce serait qu'il doit avoir une pipeline qui viendrait de Alberta.
Ah oui.
Jusqu'à la côte pacifique.
Pour alimenter la Chine.
Pour alimenter la Chine.
Donc, c'est une condition sine qua non.
Oui. Alors, il est coincé de par ça, mais il y a aussi de par les conservateurs en Alberta, dans l'industrie, et aussi en Saskatchewan.
Mais que feriez-vous à la place du gouvernement dans un monde idéal? Quelles mesures prendriez-vous dans une situation comme celle-là?
À mon avis, il y a très peu qu'on puisse gagner pour les gens ordinaires de la Colombie-Britannique et aussi, je dirais aussi pour l'Alberta et pour le Canada, parce que en général, au point de vue économique, bien que ceux dans l'industrie disent le contraire, en fait, ils parlent du travail, jobs.
Mm-hmm.
Et il y aurait très, très peu de travail permanent.
Oui.
Oui, de construction. Mais même dans la construction, c'est à voir qui seraient les gens qui seront les ouvriers.
Oui.
Est-ce qu'ils viennent de la Colombie-Britannique ou est-ce qu'ils viennent de la Chine?
Oui, en vertu du traité qui
parce
garantit...
que la Chine le fait aujourd'hui, maintenant, déjà,
oui.
Dans le Nord. Ils amènent des ouvriers chinois qui sont bien moins payés que les gens de la Colombie-Britannique. Alors,
oui, c'est très préoccupant. Donc, il n'y a pas vraiment d'emploi d'associer à la construction de pipelines.
Et une fois que la construction est faite, il y a très peu de positions qui y restent. Peut-être, si on prend Kinder Morgan, une fois installé, peut-être il y aura 50 à 100 positions. Bonne position, bien payée.
Oui. Mais ça, c'est les arguments qu'on peut présenter aux indécis, ceux qui sont « on the fence », comme on dit en anglais. Mais entre vous et moi, l'argument principal, c'est celui de l'environnement. On a pris des engagements à la COP21. La planète souffre actuellement d'un réchauffement très grave qui menace plusieurs régions, qui menace le fonctionnement, qui a des impacts économiques évidents et sociaux. Donc, c'est la réalité, c'est le cœur du débat, finalement, l'environnement.
Oui, mais il y a un lien entre les deux, l'économie et l'environnement. Et tout dépend de ce qu'on appelle, de ce que les gens des deux côtés de l'argument parlent quand ils disent il nous faut une transition.
Oui.
Ceux en faveur, transition veut dire... On veut que ça reste comme c'est pour l'instant.
Oui, statu quo ante.
Tandis que pour ceux qui sont opposés, on dit non. Mais on dit non à ces projets avec l'idée, justement, qu'on pourrait trouver une solution beaucoup plus saine à l'affaire. Et c'est de trouver davantage de travail dans l'énergie renouvelable. Et ça se fait. Ça se fait... surtout dans beaucoup d'autres pays. Le Canada est un peu en retard de ce côté-là, mais ça se fait.
Est-ce que vous avez apprécié, est-ce que vous avez aimé le contenu du document, du manifeste Green Leap Manifesto qui a été rendu public l'automne dernier durant la campagne et dont on a reparlé ce printemps également? Est-ce que c'est un document qui vous a interpellé?
Oui, absolument. Je sais qu'immédiatement, de l'autre côté des conservateurs, on a parlé de socialistes, communistes, etc.
Oui, les gros mots.
Oh, oui. Et ils ne veulent pas qu'on creuse un peu ce sujet et voir ce qui est en dessous de cela.
Oui.
Mais il y a des gens, ici à Victoria, il y a Guy Dauncey, qui était autrefois directeur exécutif de... l'organisation BCC, le dernier C, c'est Sustainable Energy Association.
D'accord.
Donc, ce qui pousse des solutions positives.
De développement durable.
Exactement.
OK.
Et il a écrit deux livres, plusieurs livres, mais deux livres. Et un des livres, c'est the future. Il parle d'un futur qui serait basé sur une énergie renouvelable et que c'est très réalisable.
Et est-ce que c'est un livre qui a inspiré les auteurs du Green Leap Manifesto, peut-être?
Il y en a beaucoup de livres.
Oui, bien sûr.
Mais il est ici à Victoria. Mm-hmm. Il donne des présentations. Je suis allé deux fois. Je le connais bien. Et c'est basé sur beaucoup de faits. Moi, ici, je ne peux pas donner un tas de faits et des notes, etc. Ça ne marche pas pour l'instant. Mais dans ces livres-là, nous avons ces informations et c'est basé sur des faits.
Vous avez, pour revenir aux questions des oléoducs, des pipelines, vous avez parlé d'une stratégie, d'une astuce, d'une tactique qui faisait qu'on repoussait un petit peu Northern Gateway pour donner plus d'élan à Kinder Morgan avec son fameux Trans Mountain. D'après vous, fin 2016, en décembre, novembre, est-ce que le gouvernement Trudeau va accepter le projet, il va lui donner un feu vert?
Ouais. Ça se peut qu'il le fasse, mais il va payer fort, fort chèrement s'il fait.
Politiquement?
Politiquement, absolument.
Oui. Oui.
Parce qu'il y en a 15 membres de Parlement libéraux.
Oui.
D'ici, et surtout...
De Colombie-Britannique.
Oh, oui.
Qui ont fait campagne contre...
C'est ces gens-là qui ont donné la majorité à... Et alors, il pourrait perdre cela. Et il le sait.
Vous disiez qu'il était coincé. C'était une excellente expression. Un mot en terminant à propos du dossier des pipelines nord-sud?
J'ai pas peur au sujet de Enbridge. Ça va mourir.
D'accord.
À mon avis.
Donc, on va continuer de travailler à sensibiliser la population dans le dossier Kinder Morgan, Trans
absolument.
Mountain.
Et pas seulement de Kinder Morgan, mais il y a aussi la question du charbon.
Oui.
La distribution du charbon et aussi il y a le... en anglais, c'est LNG. C'est quoi en français?
Bonne question. C'est du gaz liquide, je crois, c'est ça? Non?
Oui.
Oui, OK. Je n'ai pas le terme exact en tête, mais je vois... Gaz naturel liquide.
Liquide.
Oui, d'accord.
Oui.
François Brassard, le temps qui nous était imparti est déjà écoulé. Merci beaucoup pour tous ces renseignements, pour cet éclairage sur la question des pipelines en Colombie-Britannique. Merci d'avoir été avec nous dans l'émission Le Débrief et à très bientôt.
Merci.
C'était François Brassard qu'on remercie pour sa présence d'être venu nous visiter à CILS. Il reviendra fréquemment. Je crois qu'on va pouvoir compter sur lui en tant que chroniqueur régulier à l'antenne de CILS et dans l'émission Le Débrief en particulier. C'est déjà la fin de cette édition du Débrief. Merci d'avoir été avec nous. Il est presque 17h. On aura à 17h précise l'émission Allô la planète. Restez à l'écoute. On va se saluer dans quelques instants, mais avant, j'aimerais vous signaler les éléments météo. On a 20 degrés à Victoria actuellement. On nous prévoit une journée ensoleillée demain, 20 degrés également. Quelques nuages, rien de grave. On aura toutefois un ciel gris mercredi avec une probabilité d'averse de 40%, un maximum de 17. Voilà, merci de rester à l'antenne de CILS. On se retrouve demain à la même heure. Portez-vous bien.